Partager maintenant quelques versets dans l'Écriture, dans la parole de Dieu. Et je vais suivre, si vous voulez, ce que nous avons déjà entamé la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons fixé comme projet que cette année 2016, ce soit l'année où nous verrons la main de Dieu dans nos familles. Et nous avions aborder ce terme, tu seras, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est Josué qui avait dit cela et nous avons parlé pendant quelque temps de ce qui peut être là aussi des erreurs que l'on commet, qui ne rapprochent pas les nôtres de Dieu mais qui les en éloignent. Et puis nous avons vu également tous les privilèges, toutes les opportunités que nous avions dans l'autre sens pour que justement nous soyons de bons témoins. Et maintenant, je reste un petit peu sur cette idée-là, parce qu'il faut aborder ce thème, parce qu'il est biblique. J'ai envie de dire, malheureusement, il est biblique. Ça devrait pas s'y trouver, mais ça s'y trouve. Donc, on va lire un texte dans les Galates, épître de Paul aux Galates, chapitre 5 et verset 16. Galates, chapitre 5, verset 16. Vous n'avez à l'écran que les versets 19 à 21, mais nous commençons notre lecture au verset 16. L'apôtre Paul s'adresse à des croyants, s'adresse à des chrétiens, mais pas que des chrétiens, ça peut concerner tout le monde, bien évidemment. Cette lettre aux Galates est un petit peu spéciale, parce que si vous êtes lecteur de la Bible, vous savez que dans cette lettre, on met en évidence une situation un petit peu surprenante, c'est-à-dire que ces hommes, ces femmes, ces croyants avaient engagé une vraie relation avec Dieu, ils avaient entamé une vie avec Dieu, et puis il s'était passé des événements, il s'était passé des circonstances, et ces gens-là s'étaient arrêtés dans leur course. Ils avaient marqué le pas, ils avaient ralenti, certains avaient complètement arrêté. L'apôtre Paul va s'en étonner, et notamment, il leur posera un petit peu cette remarque sous forme d'interrogation. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? C'est notamment un des exemples de cette lettre aux Galates. Et là, on y trouve peut-être une racine, ou en tous les cas, un point important qui peut expliquer leur défaillance, ou en tous les cas, leur frein. Verset 16 du chapitre 5, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, l'immoralité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les partis, si vous voulez, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Alors, pour comprendre le sens de cette expression, quand il est parlé des œuvres de la chair, ne pas marcher selon la chair, ça signifie ni plus ni moins que quand on est chrétien, quand on a fait la paix avec Dieu, logiquement, normalement, l'Esprit de Dieu est venu habiter dans nos cœurs et il nous guide, il nous éclaire. Il nous explique les choses. Et quand l'Esprit de Dieu n'intervient pas, alors on fait marcher notre tête, on fait marcher notre raisonnement, on fait marcher notre être tout entier. Et c'est ça, en quelque sorte, la chair, à savoir que l'on réagit et on réagit à des mécanismes. Et quelquefois, ils ne sont pas très spirituels, ils sont simplement humains. Et derrière ces mécanismes, il n'y a pas que de bonnes choses. Je mets en parallèle ce passage avec trois autres textes qui se trouvent également dans des lettres de Paul. Un petit peu plus tôt, il est dit dans l'Épître aux Romains, si vous voulez le lire avec moi, c'est au chapitre 13, Épître aux Romains, chapitre 13, verset 13. Nous mettrons l'accent sur ce qu'il est noté ici, les jalousies. Alors on va mettre ça d'une manière globale, la jalousie. Et Romains chapitre 13, verset 13, dit ceci: « Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité. » Et c'est étonnant, on va associer à tout cela les querelles et les jalousies. C'est mis au même niveau. C'est pas mis en dessous, c'est mis au même niveau. Querelles et jalousies. « Revêtez-vous du Seigneur Jésus, ayez n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Un peu plus loin, 1 Corinthiens, c'est juste après. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 1er. « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels ? Ne marchez-vous pas selon l'homme ? Quand l'un dit « Moi, je suis de Paul » et un autre « Moi, d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes ? Qu'est-ce donc qu'Apollos ? Et qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Amen. Et dans la deuxième lettre, enfin, aux Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 19, deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, verset 19. Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. C'est devant Dieu, en Christ, que nous parlons. Et tout cela, bien aimé, nous le disons pour votre édification. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je le voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'aie à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Amen. On arrête là. Cette description, elle n'est pas très flatteuse, hein, vous avez remarqué. Mais ce que je note tout de même, c'est que jalousie, querelle font partie de notre monde, vous le savez bien. Mais malheureusement, ça a fait partie de l'histoire de l'Église et ça, c'est dommage. On aurait tellement voulu que ça n'y soit pas. On aurait tellement voulu, pardon, que ça n'y soit pas. On aurait tellement aimé que dans l'Église, toutes ces choses-là disparaissent. Et manifestement, ça pouvait disparaître. Ah oui, manifestement, c'était quand même l'intention de Dieu. Il n'était pas normal que l'on vive avec ces choses-là. Ça ne devait pas s'y trouver. Regardez l'agacement de Paul, sainte colère, devrait-on dire. Remarquez de quelle façon il réagit face à ces situations. Vous êtes des enfants, vous devriez avoir grandi dans la foi, mais ce sont des enfantillages et vous vous disputez pour trois fois rien. Et il ramène ça à la nature humaine. Et il faut reconnaître qu'on est toujours obligé de ramener ça à la nature humaine. Il y a une différence dans le dernier texte que l'on vient de lire, c'est qu'il y avait eu des choses terribles qui s'était accompli dans cette église de Corinthe. C'était le fait d'hommes, de femmes qui pratiquaient le péché et qui ne se repentaient pas. Alors on aurait dû les mettre en garde, on aurait dû être vigilant, on aurait dû les avertir. Peut-être que ça a été fait. En tous les cas, ça n'a pas suffi. Il y a eu finalement un endurcissement, il y a eu un entêtement et ça a provoqué de la cabale, ça a provoqué de la jalousie, ça a provoqué des querelles. Parce que quand quelqu'un agissait mal, mais qu'il ne changeait pas d'attitude, qu'il ne changeait pas d'avis, d'autres s'en plaignaient. Alors ils s'en plaignaient peut-être aux personnes intéressées, et puis peut-être à d'autres. Et puis, de fil en aiguille, ça avait pourri l'atmosphère. Ça avait gangréné un petit peu l'atmosphère. Il n'y a rien de plus terrible que cela, évidemment. Alors, les querelles, les jalousies, ça ne devrait pas exister quand on est croyant, parce que ça fait partie de la nature humaine. C'est un trait de caractère plus ou moins saillant. Mais quand on devient enfant de Dieu, on prie pour être débarrassé de ces choses-là. Amen. Non, vous n'êtes pas persuadé. Je vous encourage à le faire. Moi, je vous encourage vraiment à le faire. On prie pour être débarrassé de ça. Parce que ça va nous faire du tort. Ça va nous empoisonner l'existence. Ça va nous faire du mal. Et on ne va pas rentrer dans tout le détail, on y viendra peut-être une autre fois. Mais je m'arrête que sur les jalousies, parce que, vous imaginez, là, il nous faut 4 heures. Hein. Certains ont pratiqué ça toute leur vie, alors résumer ça en 4 heures, c'est même court. Mais les jalousies, on peut d'ailleurs associer ça à l'envie et aux querelles. Ça, c'est un pack, hein, ça fait partie d'un même lot, tout cela. L'un entraîne l'autre, évidemment. C'est quand même terrible parce que je voudrais qu'on prenne conscience que la jalousie, c'est quelque chose d'épouvantable. Le livre des Proverbes dit « Car la jalousie met un homme en fureur et il est sans pitié au jour de la vengeance. » Rien que la jalousie. La fureur est cruelle, la colère impétueuse, mais qui résistera devant la jalousie? Les conséquences, les effets de la jalousie, quelles que soient d'où qu'elles viennent, sont littéralement dévastateurs. J'ai le sentiment, alors c'est peut-être pas exact à tout point de vue, mais dans une grande mesure, il me semble que la jalousie, on ne naît pas avec. C'est pas possible. Ça fait partie de la nature humaine. Mais je crains que ce soit une fragilité que l'on va susciter, que l'on va créer et que l'on va malheureusement enraciner et entretenir. Il me semble que dans le fond, si on réfléchit un instant, qu'est-ce qui va rendre un enfant jaloux? Qu'il soit fils unique ou qu'il soit dans une grande fratrie. Qu'est-ce qui va faire qu'un enfant va être jaloux? Vous qui avez eu des enfants, quand ils sont tout petits, ils sont jaloux de rien. Ils sont exclusifs. Vous êtes tout pour eux et ils n'ont que vous. Alors, en grandissant, ils vont apprendre et vous allez leur apprendre le partage. Ça montre bien déjà là que ce n'est pas gagné. Hein. Ouais, il faut partager. Et puis, s'il doit partager avec vous, ce n'est pas grave parce qu'il se doute qu'à un moment donné, ça va lui revenir. Et puis, quand il y a des frères et des sœurs qui arrivent, là, il se peut que petit à petit, on entre dans une forme de compétition, peut-être même de jalousie. C'est peut-être inconscient, on ne s'en rend pas bien compte. On a connu des situations où, malheureusement, dans des familles sont nés des enfants fragiles de santé, par exemple. Je me souviens de cette famille que l'on a connue il y a de nombreuses années, où le troisième est né avec la maladie bleue, problème cardiaque. Et heureusement qu'un cardiologue de permanence à l'hôpital est passé un dimanche après-midi. La dame avait accouché le samedi matin, je crois, qu'il est passé dans toutes les chambres. Ce n'était pas du tout son service, la maternité. Et puis il s'approche de l'enfant, il se rend compte tout de suite qu'il y a un problème. Il est en train de mourir, personne ne l'avait vu. Donc d'urgence, ils l'ont transféré dans un autre service. Il a été opéré à cœur ouvert, ils lui ont sauvé la vie, grâce à Dieu. Mais ça a été un enfant difficile, parce que vous imaginez, mais dans cette famille, ça a été compliqué pour les parents. Hein, de consacrer autant de temps aux uns, aux autres, c'est difficile. Dieu merci, les enfants ont bien grandi quand même. Quelques années plus tard, c'est celle du milieu qui a été atteinte d'une infirmité. En quelques semaines, elle a perdu la vue. Quelques semaines. Et ils lui ont trouvé une maladie, là aussi, pas de larmes, quelque chose d'intrinsèque. Les os se dessèchent, maladie orpheline, évidemment. Et l'Église a prié, et par la grâce de Dieu, petit à petit, elle a récupéré dixième après dixième. Sur l'espace de 1 an et demi, elle a récupéré pratiquement sa vue avec correction malgré tout. Mais elle a récupéré pas mal de dixièmes et ça a été miraculeux. Mais que de galères, que de souffrances. Et quand il vous faut gérer vos enfants, celui qui revient de l'école, qui s'est fait disputer, et l'autre qui est à la maison, qui a la fièvre et qui crie, etc. On va passer plus de temps vers l'un, moins de temps vers l'autre. Ça peut créer des jalousies. Quelquefois, ce sont des mots qui créent des jalousies. Des mots qui vont être adressés à un enfant. Il est formidable, qu'est-ce qu'il est doué, qu'est-ce qu'il est rigolo, etc. dans des réunions de famille. Et puis on oublie que tous les enfants entendent. Et qu'il y en a un qui n'est pas rigolo, il y en a un qui n'est pas si beau que ça. Et lui, on ne lui adresse pas la parole directement, parce qu'il y a un bout en train dans l'eau, etc. On ne se rend pas compte, mais on crée une fragilité. À un moment donné, on va créer cela, même si on ne le veut pas. Évidemment, on ne le veut pas. J'ai l'impression qu'à partir du moment où dans nos attitudes on fait des comparaisons, on va créer un danger. Si on fait des comparaisons, on va créer un danger. Je parlais dans des familles, des frères et sœurs dans une maison, mais frères et sœurs dans l'église, c'est pareil. Hein. Eh oui, on est des frères et sœurs aussi. Hein. Ouais, lui, il a des qualités, lui, il fait plein de choses, moi, je ne sais rien faire. C'est peut-être parce qu'on va s'en persuader ou c'est peut-être parce qu'on nous l'a dit. Je crois vous l'avoir dit une fois, quelqu'un qui, malheureusement, il avait deux mains gauches. Et il n'était pas habile de ses mains. Il n'était franchement pas habile, mais il voulait toujours faire quelque chose. Et à chaque fois qu'il touchait quelque chose, ça finissait mal. À chaque fois qu'il voulait, ne serait-ce que prendre un seau pour nettoyer, hop, il renversait tout. Enfin bref, c'était une catastrophe, une catastrophe. Et une énième fois, dans l'église, il avait encore fait quelque chose, il avait encore mal fait quelque chose. Et quelqu'un arrive et quelqu'un voit ce qu'il avait encore fait en disant, parce qu'il prenait des initiatives, hein, et il n'attendait pas qu'on lui demande. Dès qu'il voyait un truc qui n'allait pas, hop, il faisait. Malgré qu'on lui ait dit 10 fois, demande, attends, on va t'expliquer. Non, il le faisait à chaque fois. Et puis un beau jour, quelqu'un arrive et voit ce qu'il avait fait encore une énième fois. Il dit, mais c'est pas possible. Alors il avait vu qu'il avait fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Alors il vient s'excuser, mais pour la millième fois. Il vient s'excuser. J'aurais pas dû, excusez-moi, j'aurais pas dû. Et l'autre bouillait intérieurement et lui dit, oui, excusez-moi, je suis un bon à rien, je suis un bon à rien. Et lui, n'en pouvant plus, lui a dit, mais non, t'es pas un bon à rien, t'es juste mauvais à tout. Arrête. C'était pas un bon à rien. Personne peut dire je suis bon à rien. Mais certains sont pas très doués à tout, hein, faut le reconnaître. Quelquefois, on a entendu une fois, deux fois, trois fois cela. Puis on a été persuadé que c'était vrai. On a une mauvaise estime de soi. On pense qu'on n'est pas capable. On pense qu'on ne peut pas le faire. J'ai rarement rencontré des gens qui avaient peu d'estime d'eux-mêmes, qui n'étaient pas jaloux des autres. Forcément. Parce qu'on aimerait être comme les autres. On aimerait ressembler aux autres. On aimerait être à leur place. Oh, on n'ira pas jusqu'à dire « ce serait bien que lui prenne ma place ». Non, mais on aimerait être ailleurs. On aimerait être quelqu'un d'autre, on aimerait être différent. Ça crée quelquefois de la jalousie, tout cela. Je pense que certains ont des limites intellectuelles, physiques, ne peuvent pas tout faire, ne comprennent pas tout, etc. Vont pas faire de grandes études, etc. Et imaginez dans une famille qui est un surdoué et que tous les autres soient normaux. Ça va créer un fossé à un moment donné. C'est inévitable. D'où votre talent, d'où votre intelligence pour veiller à cela, mais il faut reconnaître que c'est quand même pas évident. Donc la vie est faite comme ça. Qu'est-ce qui va peut-être éloigner quelqu'un de faire quelque chose? Des limites, soit qu'on s'est imposé, soit qui nous sont imposées par la vie. On ne naît pas tous avec les mêmes qualités. Il y a des différences. Certains ont beaucoup de qualités, d'autres ont moins de qualités. Certains sont très beaux, d'autres sont pas très beaux. Certains sont très costauds, d'autres sont très frêles. C'est comme ça. Ça, c'est la vie. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Sauf que ça crée des jalousies, quelquefois de l'envie. Et peut-être qu'on retrouve ça aussi dans certains aspects. Et on va le voir au travers de quelques exemples. Mais j'insiste là-dessus. Ce qui peut rendre aussi jaloux quelqu'un, c'est peut-être les accidents de parcours, les accidents de la vie. Une personne qui avait tout et qui, par un accident, va perdre beaucoup de choses. Ça peut le rendre aigri. Ça peut faire en sorte que, ben, il soit écarté. On a connu des personnes aussi comme ça qui le disaient bien. Quand Quand j'étais en pleine forme, j'avais plein d'amis, on était tous les week-ends de sortie. Maintenant que je suis handicapé, maintenant que je suis cloué à la maison, maintenant que plus personne vient me voir. Vous imaginez en quel état ces gens se trouvent après ? Ça crée des jalousies, ça crée des tensions. Et puis, j'ai mis un dernier exemple, mais il y en a d'autres certainement, des échecs. Parce qu'on peut faire de mauvais choix, il faut assumer après, hein, ces mauvais choix. Et puis on peut être malheureux en se disant, et les autres, pourquoi eux ils font jamais de mauvais choix ? Pourquoi eux ils se trompent jamais ? Ça vous ne le savez pas, mais c'est l'impression que ça vous donne. Alors on jalouse et on aimerait être à la place des autres. On va s'arrêter quelques moments là-dessus parce que je voudrais vous dire qu'au travers de la jalousie et tout ce qui va être créé derrière, le diable tient dans ses mains une pièce maîtresse de son jeu. Il va l'utiliser. Il va l'utiliser pour casser vos relations avec vos frères et sœurs, dans une famille déjà, et puis dans la famille de Dieu aussi. Il va essayer de s'en servir pour briser quelque chose. Et on a vu que les conséquences peuvent aller très très loin. Quand on parle de la fureur, quand on parle de la colère, mais qui résistera à la jalousie ? Ça peut aller très 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 loin. Alors j'ai retenu quelques exemples. Et exemples bibliques, bien évidemment. Le premier de ces exemples, c'est Caïn et Abel. Vous le connaissez, hein, c'est au début de votre Bible que vous trouvez cela. On comprend qu'il y a peut-être eu une mauvaise interprétation des événements. Caïn et Abel, tous les deux, ont voulu offrir quelque chose à Dieu. Et tous, autant que l'on est, on a envie de s'offrir à Dieu, n'est-ce pas ? On a envie d'offrir nos vies à Dieu. Je pense que c'est comme ça que l'on a envie de servir Dieu. Alors on va le faire avec nos moyens, on va le faire avec nos capacités, on va le faire avec ce qu'on a à disposition. Certains ont beaucoup, d'autres ont beaucoup moins. Mais on a tous quelque chose à offrir. Non ? Tous quelque chose à offrir. La Bible dit que Abel va offrir, au bout de quelque temps, son offrande. Et l'Éternel va porter un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais la Bible dit que Dieu ne va pas porter un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Ça peut paraître très injuste de la part de Dieu. Vous imaginez un peu la chose ? Dieu approuve l'un et Dieu n'approuve pas l'autre. En quoi il s'est trompé ? Il y en a un qui était berger, il a sacrifié un animal et il l'a offert. L'autre est paysan, agriculteur, et il a cultivé, il récupère les plus beaux fruits, les plus beaux légumes qu'il peut avoir et il offre ça à Dieu. Qui a fait une faute ? En quoi Caïn aura fait une faute. Alors il y aura une explication, bien évidemment, très théologique, mais je ne vais pas m'arrêter sur l'explication pourquoi Dieu n'a pas approuvé, dans un premier temps, cette offrande. Mais je vais vous montrer la mauvaise interprétation qui en a été faite. Je vais vous montrer la mauvaise interprétation. Parce que regardez, écoutez ce que dit la Bible. Caïn fut très irrité, et son visage a été abattu. Dieu lui parle. Et il lui dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Et il y a la fin du texte que vous avez là sous les yeux. Il va adresser la parole à son frère, une explication. Je ne sais pas si c'était pour s'expliquer ou pour se venger, mais hors de lui-même, la colère l'emporte, et il tue son frère. Quand Dieu s'adresse à Caïn, Dieu va dire à Caïn, parce que Dieu est toujours honnête, hein, Dieu vous mentira jamais. Si vous lui demandez quelque chose, il va vous dire. Si vous lui demandez qu'il vous explique comment il vous voit, il va vous le dire. Il vous mentira jamais. Et Dieu dit à Caïn, tu as fait quelque chose, tu as voulu bien faire, mais tu as mal fait. Alors j'aimerais que tu recommences. Et j'aimerais que tu prennes leçon de cet échec et que tu refasses quelque chose qui me plaise. Et en l'occurrence, il suffisait qu'il regarde à son frère et qu'il compare. Il pouvait comparer lui-même. Il pouvait voir, bon, moi, ça a raté, mon frère, ça a marché, c'est quoi la différence ? Dieu ne l'a pas mis de côté tout de suite. Dieu lui a pas dit, ça m'énerve, j'aime pas ce que tu as fait, je veux plus entendre parler de toi, va-t'en. Non ! Dieu lui dit, écoute, recommence, essaye encore, je suis sûr que ça va marcher. En fait, je m'aperçois qu'entre Cain et Abel, Dieu les aime tous les deux. Je suis persuadé qu'il ne fait pas de différence entre l'un et l'autre, de la même manière que je suis persuadé que Dieu ne fait pas de différence entre chacun de nous. Il nous aime de la même manière. De la même manière. Il ne fait pas de différence et il va donner occasion à tous les deux de le servir au travers de cette offrande, au travers de ce sacrifice. À tous les deux, il donne l'occasion de le servir. Et quelque part, il va féliciter Abel et il va encourager Cain. Il félicite l'un. Tu as réussi du premier coup, mais il encourage l'autre en disant, écoute, il faut que tu t'y reprennes. C'était pas mal, hein, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut que tu t'y reprennes. Lui, il interprète très mal cela. Il interprète ça comme un refus de la part de Dieu. C'est comme si Dieu l'avait mis de côté. C'est comme si Dieu l'avait évincé. C'est comme si Dieu l'avait mis à la porte. C'est faux. Dieu n'a pas encore décidé de vous mettre à la porte. Hein. Par contre, Dieu est décidé à vous montrer vos erreurs. Parce que c'est en vous montrant vos erreurs que vous pourrez ne plus les commettre. Et c'est en ne commettant plus ces erreurs que vous pourrez lui plaire, lui être agréable. Finalement, la jalousie, ça n'a rien produit de bon, parce qu'il vit très mal cette intervention de Dieu. Au lieu de réparer, il va plutôt s'enfermer, il va refuser de comprendre, et ça va mal se terminer. Après ça, malheureusement, après qu'il ait mis un terme à cette discussion avec son frère, en le tuant, malheureusement, là, pour de bon, il va être chassé loin de Dieu. Jusqu'à présent, il ne l'était pas. Frères et sœurs, je suis persuadé que quelquefois nos échecs ont suscité de la jalousie parce que Dieu ne nous disait pas oui et il disait oui à notre frère, à notre sœur. Il ne nous disait pas oui à nous, mais il disait oui aux autres et ça nous a passablement agacés, irrités, énervés. Si c'est ainsi, entendez de Dieu le conseil. S'il vous a dit stop, s'il vous a dit ça ne me plaît pas, essayez de comprendre pourquoi. Il y a certainement une explication, il y a certainement une raison, et Dieu n'est pas là pour vous dire « j'en peux plus de toi », mais il est là pour vous encourager, pour vous dire « essaye encore, ça va marcher, essaye encore ». Dieu est là pour vous bénir, j'en suis persuadé. Ne finissez pas votre conflit comme l'a terminé Cain. D'une certaine manière, quelquefois, on n'a pas tué son frère, sa sœur, on lui a juste plus parlé. Hein. Mais c'est pareil, hein. Si ça fait un an, deux ans, trois ans que vous ne parlez plus à votre frère, à votre sœur chrétien, dans la foi, il y a un problème quand même. Et même si ce n'est pas de votre faute, pensez-vous, ce que vous avez fait après, c'est votre responsabilité. Et là, il faut y revenir. Là, il faut aller s'expliquer et demander pardon. Là, il faut aller s'excuser. Là, il faut aller chercher à nouveau le contact. Parce que je ne pense pas que dans le silence, on y gagne quelque chose. On s'enferme dans ses frustrations et dans sa jalousie, et ce n'est pas bon. Il y a un autre exemple, qui celui-là est assez incroyable, les frères de Joseph avec Joseph. Vous connaissez l'histoire ? Jacob a eu combien d'enfants ? 12, les 12 tribus d'Israël. Il a eu 12 enfants, pas de la même femme. Il en a eu 6, d'une de ses épouses, 2 de l'autre. Et puis, chacune de ses épouses lui a donné aussi la possibilité d'épouser une de leurs servantes. Et avec ses servantes, il a eu 4 enfants, 2 et 2, avec chacune des servantes. Donc, ça fait 12. Les frères, au moins 10 d'entre eux, les frères de Joseph vont être jaloux de lui. Et on trouve l'histoire dans le chapitre 37, notamment, de la Genèse. Mais avant de revenir sur ce qui s'est passé cette fois-là, on va remonter à l'étage au-dessus, c'est-à-dire au niveau des parents. Parce que tout a commencé là. Je vous disais tout à l'heure que dans une fratrie, on peut créer des fragilités, on peut créer des difficultés. Quand, justement, on suscite de la différence entre les enfants, c'est un très mauvais plan. Là, vous avez une drôle d'histoire qui s'est passée. On trouve cela dès le chapitre 29. Jacob est tombé amoureux d'une femme qui s'appelait Rachel. Il a voulu la marier Et malheureusement, c'était la coutume de l'époque, mais il s'est fait un petit peu avoir dans ce sens que quand il l'a épousée, il ne s'est pas rendu compte qu'il n'épousait pas Rachel, mais il épousait sa sœur aînée. Il n'avait pas voulu se marier avec cette femme qui s'appelait Léa, lui voulait se marier avec Rachel. Sauf que la coutume voulait qu'on ne marie pas une fille si l'aînée n'était pas mariée d'abord, par ordre. D'abord l'aînée, ensuite les autres. Donc, le futur beau-père, il n'a rien dit, mais il a refilé l'aîné. Vous imaginez un peu? Donc, il n'a pas été heureux et il a voulu épouser la cadette, Rachel. Et le beau-père lui a dit, écoute, pas de problème, tu peux l'épouser maintenant puisque l'aîné est marié. Vous imaginez dans quel pétrin on l'a mis, hein? Sauf qu'à l'époque, il y avait une dot, un trousseau, hein? Ça lui a coûté 7 ans, hein, 7 ans de travail. Mais il l'a eu, parce qu'il l'aimait. Imaginez donc ce Jacob marié avec deux femmes, une qu'il a voulu, l'autre qu'il n'a pas désiré, sauf qu'il est marié avec les deux. Et c'est là que ça va commencer à tourner vinaigre. Je vais vous lire le texte, c'est quand même assez terrible. Dans Genèse chapitre 29, notez la référence à partir du verset 30. Jacob alla aussi vers Rachel, qui l'aimait plus que Léa. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit « L'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera ». Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé, et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai engendré 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Et elle cessa d'enfanter. Ça veut dire que pauvre Léa, quand elle a eu un premier garçon, elle s'est dit, mon mari va m'aimer, puisque l'autre ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais manifestement, ça n'a pas suffi. Elle en a eu un second, et elle a dit, là au moins, je pense que ça va marcher, ça n'a pas suffi. Et un troisième. Il n'y a qu'au quatrième, où elle a décidé de rendre grâce à Dieu quand même pour tous les enfants qu'elle avait eus. Elle avait fait passer son problème. Avant de bénir et de louer Dieu, ça c'était une inversion des genres, il fallait apprendre à louer Dieu en toutes circonstances, mais elle avait du mal. Vous imaginez que forcément ça s'est déroulé sur plusieurs années. On ne sait pas si elle est tombée enceinte tous les ans, mais en tous les cas, il a fallu un peu de temps pour avoir ses 4 enfants, et ça semble ne pas suffire. Pauvre Léa qui ne se sent pas aimée, pauvre Léa qui va faire grandir ses enfants avec elle-même un problème déjà sur elle. Là-dessus, Rachel en a un petit peu marre. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel, et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ?» Et elle dit, « Voici, ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle j'ai aussi... » des fils. Donc elle donne sa servante à son mari et il va avoir 2 enfants de plus avec elle. Là-dessus, Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa sa servante et la donna pour femme à Jacob. Et il a eu 2 autres enfants avec cette servante. Pour finir, après 10 enfants, c'est Rachel qui tombera quand même enceinte et qui donnera naissance à 2 enfants, Joseph et Benjamin. Jacob est un petit peu vieux maintenant. Les années sont passées, hein, quand même. Mais vous imaginez dans quelle famille on vit. C'est une famille de fous. Hein. Ah, c'est une famille de fous. Hein. Comment vous voulez que les enfants... Moi, j'en viens aux enfants. Comment vous voulez que les enfants s'entendent bien? Il faut un miracle. Hein. Et le miracle n'aura pas lieu. Il fallait un miracle. Entre eux, ils ont tous le même père, mais ils n'ont pas tous la même mère. À un moment donné, une histoire parmi tant d'autres, mais c'est quand même écrit dans la Bible, c'est quand même assez incroyable. Ruben, fils de Léa, sortit au temps de la moisson des blés, et il trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Et elle lui répondit, « Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ?» Et Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. » Je ne suis pas sûr que les enfants, ils n'aient pas tout entendu hein, dans toutes ces histoires-là. On en rit, mais c'est à pleurer. Hein, parce que vous allez créer un drame. Le drame, il est en train de se coudre petit à petit. Il est en train de monter. Ça va être quelque chose d'épouvantable. J'en viens à tous les enfants. Il y a une différence d'âge entre Ruben et le dernier Benjamin. Le dernier naîtra un moment plus tard d'ailleurs, mais cette fois-ci, Joseph, c'est le petit dernier. Et comme ça arrive quelquefois, le petit dernier, il en profite bien, hein, parce qu'il sait que c'est le dernier. Hein. Alors voilà, il y a des tensions. Et Jacob avait un faible pour le petit dernier. Je ne sais pas si c'est parce que c'était le fils de Rachel. Depuis tant de temps, il avait souhaité avoir un enfant d'elle. Je ne sais pas si c'est parce que les autres sont déjà grands. Mais la Bible dit, et ça, c'est pas bien, il n'aurait pas dû être comme ça. Mais j'aimerais quand même vous faire remarquer qu'avant que Joseph naisse, je suis persuadé que Jacob a aimé tous ses enfants à la folie, hein, non ? C'est en grandissant qu'il a reporté par rapport à l'attention qu'il fallait pour certains, etc. Mais à mon avis, il les a tous aimés, ses enfants. C'est les grandes personnes autour qui ont créé des conflits, qui ont créé par leurs attitudes, par leurs mots, par leur manière d'être, c'est eux qui ont créé des conflits entre les enfants. Mais je reste persuadé qu'ils étaient tous aimés, même s'ils avaient des caractères différents. Et heureusement qu'on les aime tous de la même manière et différemment à la fois. Mais on les aime autant, on les aime autant. Là, le fait est qu'il avait une tunique de plusieurs couleurs, c'était le petit dernier. Et puis, il ne fait pas gaffe, mais il commet des erreurs aussi, ce fameux Joseph. Au chapitre 37, on a un petit peu l'histoire de ce qui s'est passé. Il nous est dit que ses frères le prirent en haine et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. À chaque fois qu'eux faisaient de mauvaises choses, hop, il allait rapporter ça à son père, etc. Donc évidemment, ça crée des tensions. Ça crée des tensions. Et puis, il s'est passé un autre événement. C'est que Dieu lui a donné des rêves étonnants. C'est comme si Dieu était en train de le prévenir, de le préparer à son avenir qui allait être terrible. Alors, dans ses rêves, il voit des étoiles, il voit le soleil, il voit la lune danser autour de ce fameux soleil. Il voit des gerbes de blé qui sont liées et puis toutes les gerbes qui se courbent devant ce qui semble être la sienne, etc. Et quand il explique cela à ses parents, à ses frères, eux, ils comprennent tout de suite que Joseph va les dominer. Ils comprennent, ils voient tout de suite la chose comme ça. Ce n'est pas exactement ça, mais ils l'interprètent comme ça. Ils n'en peuvent plus de Joseph. Ils n'en peuvent plus. Et il va rajouter ça sur le dos. Donc ils l'ont pris en haine. « Est-ce que tu nous gouverneras ?» Ils le haïrent encore davantage. Et puis, quelque temps plus tard, tous les frères sont partis faire paître les troupeaux et le papa demande à Joseph, « Va prendre un peu des nouvelles de tes frères, voir où ils se trouvent. » Et quand ils sont en plein désert, alors que Joseph arrive, c'est là que les frères vont mettre à exécution leur plan terrible. « Voilà le faiseur de songes, tuons-le. » Radical, hein ?« Tuons-le. » Il a fallu la présence d'esprit d'un de ses frères pour qu'il ne fasse pas cela, c'est Ruben, le fils aîné, qui dira « Ne répandons point de sang, jetons-le dans une citerne qui est au désert, mais ne mettons pas la main sur lui. » Et c'est ce qu'ils vont faire, ils vont le jeter dans une grosse citerne, alors qu'il va supplier pendant des heures où ils vont prendre le casse-croûte tranquille, alors qu'il va supplier de le sortir de là. Une caravane vient pas loin d'eux, ils l'arrêtent, ils vendent leur frère qui va se retrouver en Égypte et pendant 20 ans, il va disparaître. Il ne va pas mourir, c'est miraculeux. Dieu va veiller sur lui. Et c'est plus de 20 ans plus tard que leurs chemins vont se croiser quand Joseph a été élevé au rang de gouverneur de toute l'Égypte. C'est miraculeux. Et c'est grâce à ça, ce destin à part, que le peuple d'Israël devra sa survie. Et ses propres frères viendront une première fois et reviendront une deuxième fois en Égypte pour chercher un peu de nourriture et se courberont devant le gouverneur sans l'avoir reconnu. Et le rêve de 20 ans plus tard va se réaliser devant ses yeux. Effectivement, ses frères se courbent devant lui. Mais ce que je voulais vous mettre devant les yeux, c'est la mauvaise interprétation que les frères ont eue vis-à-vis de Joseph. La mauvaise attitude, certainement, de ces deux sœurs qui vont se disputer le mari, qui vont donner des servantes pour avoir d'autres enfants, pour essayer de revendiquer un peu l'amour de celui qui ne les aime pas. Et quelle bêtise le beau-père, le père de ces deux jeunes femmes a fait en donnant celle qui n'était pas aimée, avant de donner celle qui était aimée. Bref, on fait tous des tas d'erreurs dans la vie. On fait tous des tas d'erreurs. Mais ce n'est pas pour autant que ces erreurs sont sans fin et qu'il n'y a pas moyen d'un retour, qu'il n'y a pas moyen de revenir sur ces erreurs-là. Jacob y reviendra, et même les frères y reviendront, parce que Dieu est bon, parce que Dieu ne veut pas que l'homme s'enterre dans sa jalousie, mais il veut le délivrer de cela. Et on s'aperçoit que ça prendra du temps, il va y avoir pas mal de difficultés, mais ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, quand on est rempli de jalousie, soit ça s'arrête, soit vous allez exploser. Alors avant que vous n'explosiez, demandez à Dieu qu'il vide la coupe, demandez à Dieu qu'il vous débarrasse de ces sentiments de jalousie, parce que vous ne résisterez pas longtemps encore, il faut en être débarrassé. Je terminerai avec un dernier exemple, très surprenant celui-là, c'est celui de deux épouses encore, d'un homme. C'est dans le premier livre de Samuel que l'on trouve l'histoire. Cet homme s'appelle Elkana. Il a deux épouses. L'une s'appelle Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale, lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Amen. » Je vous avoue que on ne comprend pas bien dans ce texte l'attitude de cette femme Pénina vis-à-vis de l'autre épouse, Anne. On ne comprend pas bien. Il nous est dit que Elkana aimait Anne qui ne donnait pas d'enfant. Jamais, dans ce texte, il n'est dit qu'il n'aimait pas Pénina. Là, on est vraiment devant un cas très étrange où assurément cet homme aime ses deux épouses. Il les aime. Sauf qu'il voit la souffrance de l'une par rapport à l'autre. Et il voit que la pauvre Anne, le temps passe, année après année, puis elle n'a pas d'enfant. Et il comprend, il voit, il perçoit que c'est une souffrance pour elle, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Alors il essaye, entre guillemets, de compenser. Il va essayer d'avoir un peu plus d'attention pour essayer de lui remonter le moral, de faire en sorte qu'elle aille bien. Si Anne le vivait très bien, jamais on aurait eu cette histoire-là. Sauf qu'elle le vit très mal. Alors ça crée des tensions là aussi. Et l'attitude de Pénina, elle n'est pas heureuse quand même. Hein. Elle n'est pas bien. Vous imaginez, elle a tout. Elle a un mari, j'en suis persuadé qu'il aime. Et elle a des enfants. Elle a tout pour être heureuse. Quand On allait offrir des sacrifices et il nous est dit que Elkana prenait soin de son épouse et de ses enfants. Il donnait à tout le monde la part qu'il revenait, etc. Donc, elle pouvait voir aussi l'attachement de son mari pour leurs enfants. Elle le voyait, ça pouvait la rendre heureuse. Mais elle imaginait qu'elle était moins aimée que Anne. Donc, elle se vengeait et elle faisait un peu plus de peine, un peu plus de tort à cette pauvre Anne. Pour moi, c'est totalement incompréhensible. Ça m'amène à dire que quelquefois, les jalousies sont venues de rien. Vous m'entendez ? De rien. Pas de quelque chose. Pas d'un petit truc insignifiant. Hein. Je pense que c'est venu de rien. Sauf qu'on a monté toute une cabale dessus. On a monté tout un truc dessus. Et après, ça a enflé. Et après, ben, c'est devenu quelque chose. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Il n'y a eu que Dieu qui a pu la sortir de là, parce que vous avez remarqué que toutes les années, ça recommence, hein, toutes les années, toujours la même chose. La pauvre Anne, un jour, est entrée dans le sanctuaire à Silo, et elle a pleuré tout ce qu'elle savait, tout ce qu'elle pouvait. Et il nous est dit que le prophète est arrivé à ce moment-là, l'a vue dans cet état-là, n'a pas bien compris, il pensait qu'elle avait trop bu, qu'elle était ivre, etc. Et il va au départ vouloir la chasser, mais elle va lui expliquer ce qui n'allait pas en lui expliquant qu'elle était très sobre. Elle va lui expliquer sa douleur, sa peine. Et le prophète va lui dire, écoute, Dieu va t'exaucer et Dieu va te donner un fils. Et quelques mois après, elle tombe enceinte. Et quelques temps plus tard, elle donne naissance à celui qui porte le nom de ce livre, Samuel. Samuel qui deviendra un prophète et un souverain sacrificateur en Israël, un homme de Dieu. Elle a été consolée d'une certaine manière. Cette femme, comprenez bien, elle a eu une attitude tellement spirituelle. Elle a tellement attendu cet enfant qu'elle avait même prié en disant « Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le rends. Tu me le donnes, je te le prête. Je te le prête, il est quand même à moi, mais je te le prête. » Eh bien, la Bible dit que quand l'enfant est né, dès qu'il a été sevré, dès qu'il a eu quelques années, elle a emmené, vous imaginez, elle a emmené en pensionnat, et elle le voyait qu'une fois par an. Il n'y avait pas le téléphone à l'époque, hein. Il n'y avait pas les textos du soir. Hein. Une fois par an. Quelle consécration quand même. Quelle consécration depuis tant de temps. Mais pour elle, elle avait été comblée. Dieu avait mis un terme à son opprobre. Je pense que, avec la naissance de cet enfant, je ne vois pas comment Pénina pouvait continuer à agir de cette manière-là, ou tout du moins, j'imagine qu'elle n'a plus entendu les remarques. Elle était comblée. Elle n'a plus vu, parce qu'elle portait ses regards sur son enfant, elle n'a plus vu ce qui venait sur elle comme une souffrance inopprobe, mais elle a trouvé auprès, finalement, de Dieu sa consolation. J'avais encore pas mal d'exemples à voir avec vous, mais on ne peut pas aller plus loin. On va s'arrêter là, je pense qu'il y en a assez. Et je voudrais vous faire remarquer une chose, c'est que la jalousie, elle détruit toujours le lien fraternel. Dans les exemples qu'on a vus, ils sont tous calqués pareil. Même si l'histoire n'est pas du tout la même à chaque fois. Ça produit toujours les mêmes effets. Ça brise le lien fraternel dans une famille, dans l'Église aussi. Quand l'apôtre Paul s'adresse aux Romains, aux Corinthiens, aux Galates, il parle des jalousies, mais il en parle avec honte. Il est malheureux de ça en disant « Mais c'est pas possible, vous pouvez pas avoir de la jalousie les uns pour les autres. » Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que tout ça entraînait beaucoup de choses. Ils étaient charnels, ils n'étaient plus ou ils n'étaient pas spirituels, ils auraient dû l'être. La jalousie, les jalousies, elles vont diviser le corps. Et si l'Église est divisée, elle meurt. Si je me coupe un bras, il meurt. Hein. Si on nous démembre, les membres, ils ne vivent plus. Hein. Ce n'est pas possible. Le corps de Christ ne survivra pas à ça. Ce n'est pas possible. Alors, il se peut que les jalousies aient été créées par une interprétation des événements. Si tu as interprété et mal interprété les événements, demande pardon à Dieu pour ça. Parce que tout ce que tu as dit derrière, ça a été du vent, tu as semé le vent, et c'est la tempête qui a soufflé, pour toi et pour les autres, et ça, Dieu n'est pas d'accord. Maintenant, si tout ce qui a été jalousie, tout ce qui a été formé comme jalousie au-dedans de nous, n'est que le fruit de ce qu'on a vécu et subi. C'est de la faute des autres. Je parlais des mots, des attitudes, je parlais des difficultés personnelles, des échecs, des déboires de la vie, de tout ce qui fait qu'on n'est pas, très en estime de soi-même, on n'est pas très heureux de soi, très heureux de ce qu'on est, etc. On n'ose pas trop se regarder dans la glace. Évidemment, ce n'est pas que de votre faute, mais je crois que Dieu peut vous donner la victoire là-dessus aussi. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, psaume 139. Ça, c'est la vérité. Avec nos limites et nos faiblesses, c'est la vérité. Alors ne jalousez pas les autres, mais demandez à Dieu qu'il efface de devant vos yeux cette impression que vous avez de vous-même et laissez Dieu vous façonner, Dieu vous utiliser. Je crois que l'autorité spirituelle dans l'Église, elle s'est manifestée parce qu'on voyait comment ils étaient unis. Actes des apôtres, hein? On voyait comment ils étaient unis, ils étaient tous ensemble, toujours au même endroit. Personne n'osait les approcher. Ça semblait faire bloc. Et c'était vrai. Plaise à Dieu que l'Église soit ainsi. C'est étonnant, mais je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, c'est une pièce maîtresse dans le jeu de notre ennemi. Sème l'ivraie dans le champ. Il sème la jalousie dans les cœurs. Et ça fait beaucoup de tort. Revenez sur Caïn et Abel. Revenez sur les frères de Joseph et Joseph. Revenez sur Pénina et Anne. Et voyez que là, ils se sont trompés. Ils n'ont pas bien vu les choses et ça a entraîné beaucoup de dégâts. Et que Dieu nous permette de survivre à cela, parce que la volonté de Dieu, c'est qu'on ait de l'amour les uns pour les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Dieu nous appelle à cela. Alors, vaincre la jalousie, c'est possible. Et si vous dites, c'est impossible pour moi, demandez de l'aide à Dieu. Et Dieu va vous donner cette victoire-là. Vous serez plus jaloux, vous serez plus en colère, vous serez plus irrité, vous serez plus frustré. Qu'est-ce que ça va changer chez vous? Qu'est-ce que ça va changer? On se lève ensemble et on invoque Dieu. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Je veux toujours me rappeler ta grâce et ta bonté. Je veux toujours me rappeler ta bienveillance. Je veux toujours me rappeler ton secours et ta bénédiction. Je veux te dire merci parce que c'est toi qui règles nos problèmes. Et nous n'avons pas, nous, à régler les problèmes des autres. Et nous n'avons pas à avoir un regard envieux sur qui que ce soit. Mais nous voulons porter nos regards vers toi. Quand on porte les regards vers toi, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre plus de honte. Je prie que tu viennes pardonner la jalousie que quelqu'un a entretenue depuis des années. Je prie que tu viennes donner à quelqu'un le courage d'aller trouver son frère, sa sœur, que ce soit dans l'Église ou que ce soit dans sa propre famille, liée par les liens du sang. Je prie que tu donnes à quelqu'un d'aller trouver celui qu'il aura offensé, avec qui il aura entretenu de la colère et de la haine, peut-être même quelquefois, en tous les cas de la jalousie et de l'indifférence et de l'éloignement. Je prie qu'il y ait une réconciliation. Je prie que tu bénisses mon frère, ma sœur, et que tu lui donnes d'être libéré de ce fardeau. Je crois que c'était ce que tu voulais nous dire encore aujourd'hui, une parole d'encouragement, comment voir la puissance de Dieu, la grâce de Dieu se manifester dans nos familles, eh bien en passant par ces victoires-là. Merci de donner victoire à mon frère, à ma sœur, merci de lui donner, de triompher de tout ce qui a rongé son âme jusqu'à maintenant. Donne-lui un nouveau départ, permets-lui de repartir ainsi avec la joie dans le cœur. Merci de ta fidélité, merci de ce que tu fais, qu'il n'attende pas que ça vienne de l'autre côté, mais que lui-même se mette en route et aille ainsi sur le chemin de la réconciliation et de la paix. Tu es le Dieu de la bénédiction, nous nous attendons à toi et nous te remercions pour ce que tu fais. Si quelqu'un a été offensé, eh bien viens le combler de ton amour. Si quelqu'un a été brisé, viens le combler de ta présence. Si quelqu'un est véritablement détruit dans son âme, reconstruis-le par l'action de ton esprit et donne-lui la joie de faire en sorte qu'il vive une belle relation avec toi. Merci de ta bonté, Seigneur. Amen.